Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, j'ai la joie et la chance d'accueillir Anne Amalric. Anne, bonjour.
Bonjour Anne-Marie. Comme d'habitude, on se rencontre.
Voilà, et nous sommes hélas toujours présents pour parler d'un certain nombre d'actualités dramatiques qui touchent un certain nombre de nos contemporains. Dans un premier temps, vous vouliez rappeler la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
Oui, c'est-à-dire je voulais actualiser notre émission et justement prendre en compte notre environnement, à savoir que donc il y a d'une part au plan mondial des menaces de guerre et puis au plan local, non pas des menaces de guerre, mais c'est le temps des élections. Et alors justement, j'ai lu dans Réforme un article de Christine Pedotti qui est directrice de Témoignages chrétiens et qui m'a interpellée, enfin intéressée. Alors je voudrais en citer quelques extraits. Elle dit « Est-il légitime d'entrer dans des débats de voisinage à partir des élections municipales quand une partie du monde sombre dans la guerre ?» Et alors elle dit « Nous ne pouvons plus vivre comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de nous préparer à la guerre, mais de nous battre pour la paix. » Et ça rejoint un peu l'émission qu'on a eue en janvier par rapport à la paix, où il était question de penser EN la paix et de penser AN la paix. Donc il s'agit donc de préparer la paix et de nous battre pour la paix. Car dans ce monde, comme dit Christine Pedotti, car dans ce monde livré aux appétits des violents et des cupides, idéologue ou sans foi ni loi, la paix est devenue un combat. Et ce combat de la paix, et ça c'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce qu'elle écrit, ce combat de la paix se mène au quotidien, dans la proximité de nos quartiers, de nos relations et dans les urnes. Voilà, alors nous à la CAT, effectivement, on agit pour la paix au niveau mondial. On essaye. Mais aussi, en tant que citoyens et chrétiens, on agit pour la paix là où nous sommes.
Et ça, c'est important parce que je crois qu'il faut rappeler que les élections municipales sont une chose excessivement importante parce que les élus que nous allons mettre en exergue en termes de pouvoir locaux, ont aussi, avec les citoyens de leur commune, une action. Parce que agir pour la paix, c'est quand même l'affaire de tous,
oui.
Et notamment dans la proximité.
Et la paix commence à côté de chez nous, c'est ça.
Voilà, et il y a une prise de conscience, je pense aussi, localement parlant, peut-être par les jumelages qui existent, de manière à effectivement ne pas rester insensible à ce qui se passe ailleurs. Donc comment cette proximité entre nos quotidiens en France et ce que vivent nos contemporains ailleurs peut-être prendre sens.
Tout à fait. Donc c'était important de commencer par ce sujet-là.
Voilà, nous replaçons bien l'actualité de la CAT.
Voilà, nous ne sommes pas déconnectés de l'actualité.
Voilà. Alors, je rappelle que la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a plusieurs axes, et vous allez voir que nous allons en développer quelques-uns. Je rappelle aussi que quand nous parlons des chrétiens, contrairement à une certaine presse en France, les chrétiens recouvrent les confessions catholiques, orthodoxes et protestantes.
Et arméniennes.
Et arméniennes.
Un ami arménien me le fait relever, enfin,
souligner.
Souligner chaque fois, excusez-moi.
Vous vouliez aussi, Anne, reparler de l'enquête dont nous avons parlé la dernière fois, qui a été faite par l'IFOP.
En reparler parce que c'est situé aussi l'émission d'aujourd'hui. En janvier, nous avons parlé donc de la torture et on a mis l'accent sur un sondage réalisé par l'IFOP pour la CAT sur l'opinion des Français sur la torture. Alors on ne va pas revenir là-dessus. Donc c'était l'émission de janvier. Aujourd'hui, on va davantage parler, c'est le deuxième objet de la CAT, la lutte contre la peine de mort. Elle milite pour l'abolition de la peine de mort.
Alors ça me permet juste de repréciser que vous pouvez aller sur le site de la radio FM+, dans l'onglet « Protester », vous trouvez les podcasts avec l'ACAT. Donc en janvier, c'était une émission sur la paix et en février, c'était sur l'enquête faite par l'IFOP sur l'opinion des Français, notamment par rapport à la torture. Donc n'hésitez pas à aller écouter ces émissions si vous n'avez pas pu les écouter. Aujourd'hui, nous allons donc plus spécifiquement parler, et j'allais dire hélas, de la peine de mort.
Oui, alors avant d'évoquer ce que fait l'ACAT ou ce qu'elle propose comme action par rapport à la peine de mort, je voudrais rappeler certains chiffres. Alors au cours de l'année 2024, les 7 pays qui ont le plus procédé à des exécutions capitales ont été la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Yémen, la Somalie et les États-Unis. On reviendra sur les États-Unis, sur les chiffres. Il y a eu en 2024 47 exécutions aux États-Unis. Alors, ça explique, je veux dire, voilà. Donc, je reviens sur la peine de mort en quelques chiffres. Je redis que 113 pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Et 9 pays l'ont aboli pour les crimes de droit commun seulement. 15 pays, c'est le nombre de pays qui ont procédé à des exécutions en 2024 contre 16 en 2023. Et en 2024, on a enregistré 1518 exécutions capitales dans le monde, soit une hausse de 32%. C'est énorme ça. Et alors il faut savoir aussi, parce que ça fait partie donc, de la peine de mort, qu'il y a 28 000 personnes qui sont dans les couloirs de la mort dans le monde, d'après Amnesty International. 28 000 personnes. Et pour terminer sur les chiffres, je dirais que aussi on recense 40% des exécutions qui sont recensées dans le monde ont été menées pour des infractions liées aux stupéfiants. Ça, c'est peut-être plus pour les États-Unis, je ne sais pas. Parce que dans d'autres pays comme l'Irak, l'Arabie Saoudite, c'est surtout pour des motifs politiques. Voilà. Donc, l'ACAT donc, milite pour l'abolition de la peine de mort. Dans ce sens, elle envoie des appels urgents à ses adhérents pour qu'ils interviennent auprès des pays qui encore appliquent la peine de mort. Mais il y a une autre manière d'intervenir aussi, c'est la correspondance avec les détenus. Et ça, c'est important de le souligner, que cette action existe. Et cette action existe depuis 1992. Que l'ACAT a proposé à ses adhérents d'écrire à des condamnés à mort aux États-Unis principalement. On verra après qu'elle a signé un partenariat avec une ONG qui s'appelle Mémorial et qui s'occupe, elle, des condamnés à mort en URSS et en Russie, en Biélorussie. Mais là, c'est par rapport aux États-Unis. Et alors, c'est quand même pas mal ce que fait l'ACAT, excusez-moi de dire... Ce que fait l'ACAT, il y a 447 bénévoles qui échangent avec 239 condamnés à mort aux États-Unis. Et donc, principalement, c'est les États-Unis, mais il y a aussi des adhérents qui écrivent depuis fort longtemps à des prisonniers sahraouis. Mmh. Et cette correspondance, c'est très très important parce que ça soutient le moral des prisonniers qui sont dans ces couloirs de la mort, qui des fois vont jusqu'à la chambre d'exécution et puis hop, ça s'arrête et on les ramène dans leur cellule. C'est terrible. Mais alors, il y a un bémol à cette correspondance avec les... personnes qui sont dans les couloirs de la mort, c'est que les États-Unis ont instauré une autre méthode. Elles ont instauré la numérisation des courriers. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que d'abord, dans le temps, le courrier n'arrive pas aussi vite qu'avant, le temps qu'on procède à la numérisation, qui sert en particulier à... étudier ce qu'il y a écrit dans les courriers. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de censure. Et puis aussi, il faut dire que pour le détenu, ça n'a pas la même valeur. Quand on reçoit une lettre de sa famille ou de quelqu'un avec qui on est en lien, ça a un aspect sentimental et affectif quand même. Et puis recevoir un message sur une tablette. Alors la tablette, Oui, on fournit la tablette, mais les services, c'est payant. C'est terrible quand même. Voilà. Bon, ça ne dissuade pas les personnes qui
entretiennent cette correspondance.
Et ils font inciter les gens à faire partie de ces correspondants. Voilà.
Comment peut-on être correspondant avec une personne? Parce que, rappelons-le, avant d'être soi-disant condamné, ce sont des personnes. Comment peut-on devenir correspondant avec une personne qui se trouve dans ce qu'on appelle le couloir de la mort?
Eh bien, je pense qu'il faut se mettre en contact avec l'association, la CAT, et prendre contact, dire votre désir d'être correspondant et voir qu'est-ce qui est possible. Et peut-être, il peut y avoir aussi, parce que la CAT, ou si vous ne vous sentez pas de correspondre avec toute seule avec un détenu des couloirs de la mort, il peut y avoir plusieurs personnes qui correspondent pour le même détenu. Mmh. À Montpellier, on a eu quelqu'un, les Sirvins, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, je m'en rappelle.
Qui ont été...
Suzanne Gabu aussi.
Mmh. Oui, Suzanne Gabu, mais elle continue aussi avec Francky. Mais je pensais aux Sirvins en préparant l'émission. Mmh. Ce sont des gens qui sont même allés jusqu'aux États-Unis pour le rencontrer. Mmh. Ou du moins, je ne sais pas s'ils ont pu le voir. Mmh. Voilà.
Donc ça, c'est important pour insister sur l'aspect humain des liens.
Tout à fait.
D'autant plus que ce sont des personnes, comme vous le rappeliez, qui sont condamnées à mort avec des procès qui peut-être n'ont pas été suffisamment justes.
Ou bien menées. Tout à l'heure, dans les bonnes nouvelles, j'évoquerai le cas d'un détenu dont la condamnation a été annulée. Donc ce sont des gens, peut-être, et même certains peut-être, qui peuvent être relâchés. Donc c'est important qu'ils restent... Parce que quand même, l'isolement, ça induit sur le psychisme, et après ça détruit des hommes, on en a parlé. Hein. Voilà.
Oui, puis ces conditions dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, c'est quand même des conditions absolument atroces. Ce n'est pas ce qu'on connaît, nous, dans les cellules que peuvent avoir les prisons en France ou pas? Quelle est votre connaissance, de la réalité de ces couloirs
de la mort?
La réalité,
je pense, non. C'est vrai que c'est terrible comme condition de détention. Ça n'a rien à voir avec les conditions de détention en France. Mais en France, justement, on s'intéresse à ce que vivent les détenus en prison, notamment l'isolement. Et l'isolement, ça, c'est vraiment quelque chose de terrible, d'isolement dans certaines conditions. Je repense à quelqu'un qui est détenu au Beaumet à Marseille, à l'isolement, tous les matins, on renversait de l'eau sur son lit et ça restait mouillé toute la journée, toute la nuit. Et il était à l'isolement. Normalement, l'isolement, la période doit être réduite. Mais il y a des gens qui passent des mois à l'isolement. C'est terrible, ça. Hein,
oui, donc ce sont des conditions qu'on peut nommer inhumaines et qui s'adressent à des humains. Donc je crois que c'est important aussi de montrer que le combat de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et aussi de redonner sa dignité aux êtres humains. Je vous invite à quelques minutes de pause. Nous allons écouter un Negro Spirituals et nous retrouvons notre invité ensuite.
So So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down, down in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Thus spoke the Lord, bold Moses said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people go.
Retrouvons notre invitée Anne Amalric pour continuer à vous parler des actualités de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et vous vouliez nous parler d'une ONG, Mémorial, Anne.
Oui, parce que précédemment, on évoquait donc la correspondance qu'entretiennent certains adhérents de la CAT en direction des détenus dans les couloirs de la mort aux États-Unis, mais il faut aussi noter que la CAT a tissé un partenariat avec une association qui s'appelle Mémorial, Mémorial France. Alors d'abord, je situerai que l'ONG Mémorial, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2022, c'est pas rien. Et elle soutient la mémoire des violations des droits humains dans le passé, mais aussi la défense des droits aujourd'hui dans les États de l'ex-URSS, donc on change de continent, et de l'ancien bloc de l'Est. Donc ce partenariat se concrétise de deux façons, dans le cadre de la Nuit des Veilleurs, et j'en parlerai tout à l'heure, et aussi par l'organisation d'ateliers d'écriture avec les groupes locaux. Et ça, c'est important parce que, justement, Mémorial France, donc c'est l'association française de Mémorial, elle agit à Paris en région pour animer des ateliers d'écriture au cours desquels des consignes sont données pour éviter la censure, les erreurs, les faux pas, et pour prodiguer des conseils sur des sujets et des thèmes à aborder ou à ne pas aborder. Je crois que c'est important que ça aussi, ça existe. Donc, ce partenariat est important. Alors, je vais aller très vite parce que donc la deuxième façon d'être partenaire avec ce mémorial, c'est que elle participe à la Nuit des Veilleurs et elle nous avait donné donc le cas d'un prisonnier qui s'appelle, un très jeune prisonnier qui s'appelle Egor Balazaïkin, qui avait 17 ans lorsqu'il a été emprisonné en 2023 pour avoir attaqué les bureaux de recrutement militaire après l'invasion russe de l'Ukraine. Donc il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement. Et en 2025, lors de la Nuit des Veilleurs, on avait évoqué son cas. Et à la suite de la Nuit des Veilleurs, ce détenu a reçu 1000 courriers de soutien. Et il a été très ému de recevoir tous ces courriers. Et lui-même, par l'intermédiaire de Mémorial France, il a répondu à ces courriers. J'aimerais quand même citer son courrier parce que c'est dire l'importance de ces liens pour les détenus. Hein. Il dit, voilà, je cite son courrier. Je rappelle son nom, Egor Balazaïkin. Un immense merci pour tout ce que vous faites, pour chaque mot, chaque geste, chaque prière et chaque carte envoyée. Je crois vraiment que tout cela n'est pas en vain, que chaque message, chaque impulsion envoyée à l'univers, à Dieu, peut changer nos vies. Cela peut, en fin de compte, nous conduire tous vers notre rêve, vers la paix, la liberté et l'harmonie dans l'âme. Cela peut tout réconcilier et tout unir. Les cartes que vous m'avez envoyées sont magnifiques. Les mots qu'elles contiennent donnent de l'espoir. Il ne me reste sans doute qu'à espérer, à ne pas perdre la foi en la vie, en l'humanité. Et à penser à vous, à vos associations, à vos pays et à vos villes, dans mes prières de retour. Tout se passera comme il se doit. Tout ira bien. Avec ma sincère gratitude depuis Saint-Pétersbourg. Je trouve que c'était important de lire cette lettre parce que ça dit bien comment sont ressentis ces courriers qui leur sont adressés.
Et ça montre l'importance du lien, de la proximité dont nous parlions en début d'émission, qui peut se manifester de différentes manières. Donc vraiment cette proximité et ce lien entretenu avec des détenus, pour des causes qui ne nécessitaient pas ces condamnations, sont quand même importantes à souligner que vous puissiez, auditeurs, auditrices, vous lancer vous aussi, peut-être, dans cet engagement-là.
Ou vous associer avec des personnes qui déjà sont en correspondance.
Vous vouliez, Anne, ensuite nous parler d'une déclaration du Premier ministre espagnol.
Alors là, on passe à un autre aspect de la carte qui s'intéresse aussi au droit d'asile et plus largement au sort des étrangers. Et on a retenu, on a été marqué là aussi par la décision, ou du moins une intervention du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui a décidé de régulariser en Espagne 500 000 immigrants.
500 000.
Et moi, j'aimerais là aussi lire exactement ce qu'il dit, parce que pour ne pas déformer.
Tu as raison.
Voilà. Alors d'abord, il dit pourquoi, et ça m'a plu, la façon dont il dit. Imaginez que vous soyez le dirigeant d'un pays et que vous soyez confronté à un dilemme. Environ un demi-million de personnes, essentielles à la vie quotidienne de tous, vivent dans votre pays. Alors ça, c'est beau. Elles s'occupent de parents âgés, travaillent dans de petites et de grandes entreprises. Elles récoltent la nourriture qui arrive sur nos tables. Elles font aussi partie de notre communauté. Le week-end, elles se promènent dans les parcs, vont au restaurant et jouent dans des équipes locales de football amateur. Mais une chose essentielle distingue ces quelques 500 000 personnes des autres habitants de votre pays. Elles ne disposent pas des documents légaux leur permettant d'y vivre. En conséquence, elles n'ont pas les mêmes droits que les citoyens de votre pays et ne peuvent pas remplir les mêmes obligations. Elles ne peuvent pas accéder à l'enseignement supérieur, payer des impôts ni cotiser à la sécurité sociale. Et alors il pose la question, que devons-nous faire de ces personnes? Il dit, nous devons agir pour deux raisons. D'abord, la première, et c'est la plus importante, elle est d'ordre moral. Parce qu'il est de notre devoir de devenir la société accueillante et tolérante que nos proches auraient espéré trouver de l'autre côté de ces frontières. Mmh. Et il sait de quoi il parle, parce qu'il parle justement des Espagnols qui ont été obligés de partir aussi. Et la seconde raison, dit-il, qui nous a conduit à la régularisation est purement pragmatique. L'Occident a besoin de cette population. Voilà. Alors je ne voudrais pas lire toute son intervention, mais je voudrais lire pour finir l'appel qu'il nous adresse à nous. Nous, nation occidentale, devons choisir entre devenir des sociétés fermées et appauvries ou des sociétés ouvertes et prospères. La croissance ou le repli, telles sont les deux options qui s'offrent à nous. Les gouvernements peuvent adopter la vision en somme nulle de l'extrême droite et se replier sur l'isolement, la pénurie, l'égoïsme et le déclin. Ou bien on peut choisir on peut opter pour la prospérité et la dignité humaine. J'espère que beaucoup d'autres feront le même choix que moi. Je ne dis pas ça, mais c'est, ça aussi, c'est très beau.
C'est intéressant, à une époque où la France et les Français sont appelés aux urnes, à peut-être aussi entendre ce que d'autres voix humanistes et politiquement engagés sont en capacité de promouvoir sur leur territoire avec cet appel aux nations occidentales. Donc, nous vous invitons à aller relire la déclaration du Premier ministre espagnol et cet appel aux nations occidentales par rapport à une intégration beaucoup plus humaine et politiquement parlant qui tient la route de personnes étrangères sur nos sols. Vous vouliez maintenant nous parler de l'appel du mois sur les 2 minutes qui nous restent, Anne.
Oui, il ne reste pas beaucoup de temps. J'avais prévu de vous donner des bonnes nouvelles de la CAT, mais je n'aurai pas le temps. Là, il vaut mieux quand même parler de l'appel urgent que vous retrouverez, si vous souhaitez le signer, sur le site A4France en minuscule .fr. Là, vous trouvez ça, appel du mois. Donc, l'appel du mois, ce mois-ci, il est adressé à l'ambassade royale de Thaïlande en France et il concerne une personne qui s'appelle Montol Bousba Tirkaot, 32 ans, qui est un activiste thaïlandais pro-démocratie, originaire de Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande. Et à la suite de la publication de messages sur le réseau social Facebook critiquant la famille royale, Montol Bousba Tirkaot, donc activiste pro-démocratie, a été condamné, écoutez ça, à 46 ans d'emprisonnement sans possibilité de faire appel. Alors, d'où l'urgence d'envoyer ou de souscrire à cet appel que vous trouverez, je le rappelle, sur le site de la CAT.
Merci beaucoup, Anne. Eh bien, je remercie Léonie qui était à la régie et je vous dis au mois prochain puisque cette émission a lieu chaque mois. Merci beaucoup à chacun de vous pour vos retours que vous pouvez adresser sur le site de la radio FM+. Cette émission sera podcastée. Vous pouvez donc la réécouter si vous le souhaitez et la partager avec vos proches. Merci beaucoup. Au revoir, Anne.
Merci.